C'est vrai que nous avons mis à cœur de parler d'un thème particulier, quelle est notre vision de Dieu. Mais c'est sûr que nous avons une vision correcte de Dieu, la vision de la famille, donc selon le cœur de Dieu aussi, vient donc aussi prendre place en nous. Et c'est tellement important que les familles aujourd'hui soient basées sur le roc. Comme il est dit en Matthieu chapitre 7, verset 24, celui qui écoute la parole et qui l'accomplit, c'est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est des fondements solides, c'est la parole de Dieu, c'est citer des versets aux enfants, c'est chanter, comme Steven et Maureen ont dit qu'ils chantaient ce chant, donc à Janel souvent. C'est aussi, s'il vous plaît, vous pouvez fermer les portes. Ah oui. D'accord. Alors, on va attendre qu'il puisse. Voilà. Alors, c'est tellement important qu'on ait une vision selon la parole de Dieu. Mais quelle est notre vision aujourd'hui? Avons-nous véritablement vu le Seigneur? Avons-nous véritablement eu une vision qui nous pousse à la fin à dire « Me voici, envoie-moi ». Si on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Ce serait bien. En 1 Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 4, nous lisons ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Donc posons-nous ces questions. Premièrement, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'entendons-nous? Que contemplons-nous? Qu'avons-nous touché de nos mains concernant la parole de vie? De qui rendons-nous témoignage? À qui annonçons-nous la vie éternelle? Et qui est désormais en communion avec nous comme résultat de notre vision de Dieu? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire de la vision que nous avons de Dieu. Bien sûr, quand on a commencé notre marche, en Hébreux chapitre 12, verset 1 et verset 2, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance en la carrière qui nous est ouverte, fixant nos regards sur Jésus, ayant fixé nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a souffert les insultes, l'ignominie, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a tout souffert. Il a souffert dans son corps. Il a lutté jusqu'au sang. Il nous dit que nous n'avons pas à lutter jusqu'au sang. Nous avons fixé nos regards sur Jésus. Nous avons compris qu'il est l'auteur et consommateur de notre foi. Et c'est pour cela que nous tenons ferme jour après jour avec nos familles face à l'adversité, face donc aux épreuves. Nous tenons ferme face à l'opposition, face à la persécution. Au mois de novembre, nous allons avoir donc la visite donc de l'équipe Porte Ouverte qui viendra au milieu de nous une semaine après donc la grande convention qui a lieu tous les ans. Ils vont nous parler de comment nous pouvons prier pour l'église persécutée. Quelle vision ont-ils, nos frères et sœurs de l'église persécutée, pour les faire tenir et pour continuer à dire: Seigneur, même si ma vie est en danger, je continue à prêcher. Notre sœur Lucha, donc cette sœur dont je vous ai parlé au Mexique, elle m'a dit: mais Marc, moi je suis là. Donc le mouvement m'a dit de partir. Donc je travaille avec les assemblées de Dieu. Donc les personnes m'ont dit que je suis en danger. Mais elle a dit, moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Elle a utilisé l'expression, j'ai eu une vision de Dieu. Dieu m'a appelé. Et s'il y a des personnes qui peuvent être sauvées, s'il y a des familles qui peuvent être sauvées, s'il y a des personnes qui sont menacées donc de mort, qui peuvent rencontrer la paix de Dieu dans leur cœur, ça vaut la peine et je reste là. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je contemple concernant la parole de vie, ce que je vis chaque jour, on ne me l'a pas raconté. Il faut que ça soit une expérience vivante, une expérience profonde que moi je vis avec Dieu. Les témoignages, on peut les lire. On peut lire, il y a un très très beau livre, des témoignages, et on peut essayer de transmettre des témoignages. Mais il n'y a rien comme la parole de Dieu qui est révélée dans nos cœurs. Expérimenter la paix de Dieu, expérimenter donc la puissance de Dieu dans nos vies, expérimenter l'autorité de Dieu et de sa parole dans nos vies, pour que quand on ouvre la bouche, les gens, tout d'un coup, ils disent, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Parce que ça m'a touché. Est-ce que tu peux encore dire ces phrases que tu viens de répéter, certainement des versets qu'on a mémorisés, qui parlent de la grâce de Dieu, qui parlent de l'amour de Dieu, qui parlent donc de cette puissance de Dieu. Et alors, ce n'est pas seulement on me l'a raconté, mais en fait, oui. Combien de fois, moi, j'ai eu des personnes me dire, parle-moi de ton Dieu, mais sans ta Bible. Ils étaient intimidés par la Bible. Quand j'étais à l'île de la Réunion en 99, pendant 3 mois, partout où j'allais, il y avait une Bible ouverte pour chasser les mauvais esprits. Mais il ne la lisait jamais. Mais la Bible était ouverte. Il y a une belle Bible partout où j'allais, mais c'était pour chasser les mauvais esprits. Merci Seigneur, la parole de Dieu, elle est vivante en nous. Amen. Elle est efficace. Elle pénètre jusqu'à discerner les pensées, les intentions de notre cœur. Mais quelle est la vision que nous avons de Dieu? La rencontre que nous faisons avec Dieu. J'aime bien cette rencontre de Josué, en Josué chapitre 5. Lorsque Josué se trouve dans un moment de combat, tout d'un coup, il y a un homme qui vient vers lui. Regardez avec moi. Il s'agissait donc d'être confronté à des ennemis. Il s'agissait d'être confronté à l'adversaire. Et alors, verset 13 du chapitre 5, quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Combien de fois, quand on voit Dieu, on se dit, « Mais es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Est-ce que tu es de mon côté ou de leur côté ?» Il répondit, « Non, non. » Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur, à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est intéressant que la réponse de Josué a été, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur. Quand il a tout simplement compris que le chef de l'armée de l'Éternel était arrivé sur la scène, était arrivé sur la situation. Combien de fois on dit, Seigneur, viens, viens, manifeste-toi. Manifeste-toi. Mais Seigneur, je suis dans un combat, je suis donc dans une situation dans laquelle j'aimerais bien savoir que tu es pour moi, j'aimerais bien savoir que tu prends parti pour moi. Et tout simplement, il dit, non, mais je suis là, j'arrive. Et immédiatement, la réponse de Josué, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Encore quelqu'un d'autre qui a une vision de Dieu, qui l'a rendu aveugle, c'est Saul de Tarse, en Actes chapitre 9. Verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, vous l'appelez Saul de Tarse, il se rendait pour justement avoir l'approbation pour la persécution des chrétiens. Et comme il était en chemin et qu'il s'approcha de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Intéressant. Tout de suite, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de réjambé contre les aiguillons. » Tremblant et saisi des fois, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. » Et on te dira ce que tu dois faire. Vous pouvez lire l'histoire de Actes chapitre 9. Vous pouvez voir exactement comment Dieu l'avait choisi. Vous pouvez voir comment il a dit à Ananias, « Ananias, tu vas te lever, tu vas prendre à droite, à gauche, tu vas aller dans telle rue, tu vas aller dans tel numéro, parce qu'il y a un homme qui est aveugle, un homme qui a besoin de guérison, un homme qui a besoin donc d'être restauré, un homme qui a besoin de comprendre beaucoup de choses, et c'est toi que j'ai choisi pour le faire. » Et Ananias dit, mais Dieu, mais c'est celui qui persécute les chrétiens. Mais Seigneur, tu te trompes. Hein? Non, pas lui. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset, quand il va déclarer par rapport à Ananias, il lui dit au verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, il comprend qu'il a affaire à Dieu, à la puissance de Dieu, à une lumière qui vient, qui le rend aveugle. Et sa réponse, « Que veux-tu, Seigneur ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» et « Que veux-tu, Seigneur ?» En Ésaïe, chapitre 6, c'est là le texte principal sur lequel j'aimerais me baser. L'appel d'Ésaïe est basé sur la vision qu'il a de Dieu. Et le résultat sera, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. J'étais à l'école biblique, que mes parents ont commencé il y a presque 60 ans. Et j'ai enseigné sur Romains chapitre 8, verset 28 au verset 39. Vous connaissez bien ce passage, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ensuite, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Ensuite, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Je suis convaincu que rien ne pourra nous séparer de son amour. Et ma sœur, quand elle m'a demandé de donner son cours, elle m'a dit, Marc, il y a quelques semaines, on était en train de prier et Dieu m'a donné une vision qu'il y avait plusieurs de ses étudiants qui certainement feront face à la mort et qu'il y aura des martyrs qui vont sortir de cette école biblique. Et quand elle m'a dit ça, elle avait des larmes aux yeux. Elle m'a dit, la situation devient tellement, tellement grave partout dans le pays. Elle dit, mais il y a ce que Dieu est en train de susciter aujourd'hui pour être des témoins. Et vous vous rappelez qu'en le livre des Actes des Apôtres, vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs. Parce qu'il y avait un prix à payer pour annoncer l'évangile. Et quand j'étais devant ces quarantaines d'élèves pendant 2 heures, et je voyais la soif qu'ils avaient de Dieu, je voyais le désir qu'ils avaient d'être conduits dans la volonté de Dieu, de pouvoir dire, me voici, envoie-moi. Je pensais, Seigneur, est-ce qu'on a tous cette même attitude du cœur? De dire que j'ai une vision de Dieu, j'ai une vision de la sainteté de Dieu, j'ai une vision de la justice de Dieu, qui me pousse à entendre la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Et qui me pousse à pouvoir répondre, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Lisons en Ésaïe chapitre 6 et verset 1, l'année de la mort du roi Ozias. Vous pouvez voir le contexte, pourquoi le roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Il y a un chant qu'on chante, me voici, j'irai pour toi Seigneur. Me voici, j'irai pour toi Seigneur, envoie-moi car je suis à ta disposition, j'apporterai ta gloire vers les nations. Me voici, envoie-moi. Mais me voici après avoir vu le Seigneur. Il y a trois choses que nous retenons ici, c'est des éléments qui ne sont pas en vain. Nous voyons que premièrement, il y a la vision de la sainteté de Dieu. La vision de la sainteté de Dieu. Bien sûr, cette vision de la sainteté de Dieu va finir par une conviction de péché, parce qu'il représentait un peuple dont les lèvres étaient impures. Une conviction de péché face à la sainteté de Dieu. Une conviction de péché qui allait le pousser à la repentance, à reconnaître son état, à reconnaître l'état du peuple qu'il représentait, à appeler, faire appel à la grâce de Dieu, faire appel donc à l'intervention de Dieu, où il envoie un de ses séraphins qui vient avec une braise ardente, qu'il touche ses lèvres, et son iniquité est instantanément enlevée, et son péché est expié. Et c'est là où, une fois qu'il a eu cette vision de la sainteté de Dieu, une fois qu'il a eu cette révélation de la grâce de Dieu, qu'il a pu dire, me voici, envoie-moi. Et ça, c'est le résultat cherché. Mais l'attitude dont font preuve ces créatures célestes, sous six ailes dont ils sont dotés, quatre leur servent uniquement à se couvrir, comme nous le ferions nous-mêmes, par exemple, face à l'éclat et la chaleur du soleil. Leurs paroles, ils ne cessent de l'appeler et de se dire les uns aux autres, comme ils s'exhortaient mutuellement pour ne jamais l'oublier, l'Éternel des armées est saint. L'Éternel des armées, il est saint. Nous savons aujourd'hui, par la parole, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais là, c'était une expression de dire, on ne peut pas arrêter de décrire qui il est. Il est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et parce qu'il est saint, que toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, quand il a vu la gloire de Dieu, quand il a vu la présence de Dieu, quand il a ressenti cette présence, instantanément, au verset 5, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Si quelqu'un ici ce matin n'a jamais expérimenté le fait d'être perdu, alors tu n'as pas encore vécu le moment d'avoir été retrouvé par le berger. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Combien de fois je parle avec des personnes qui me disent, « Ah, moi je suis chrétien depuis mon enfance. Je suis né avec le biberon, le biberon physique et le biberon spirituel. » Moi, je suis automatiquement chrétien parce que j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Alors, je commence à poser des questions. Mais alors, à quel moment tu as vécu la repentance? La repentance. Mais non, je suis chrétien depuis que je suis petit. Mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais très bien, que j'étais chrétien, que je chantais, que je priais. Mais à quel moment as-tu vécu une prise de conscience de ton état spirituel? Si ton état spirituel méritait une intervention divine de la part du Sauveur, alors c'est parce que tu as compris que tu n'étais qu'une brebis égarée. Il est dit en Ésaïe chapitre 53, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et Dieu a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Et moi, j'ai rencontré des personnes adultes, des personnes qui se disaient chrétiens depuis de longues années, dans mon expérience, qui en fait n'avaient jamais vécu une repentance. Ils n'avaient jamais vécu une prise de conscience de la sainteté de Dieu face à un simple homme. Un simple homme qui, par nature, est pécheur. On est pécheur par nature. C'est pour ça qu'on a besoin d'une régénération. Alors ici, Ésaïe, il a un sentiment de perdition. Peut-être que ce n'est pas lui qui avait péché, et pourtant la Bible dit que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'il représentait un peuple qui était impur, qui avait les lèvres impures, parce qu'il représentait un peuple qui avait besoin de, toujours de revenir vers Dieu, face à l'éclat et la majesté et la gloire de Dieu, il se voit soudain dans la même situation qu'eux. Il se voit soudain et il se dit, je m'identifie à eux, et je dis, malheur à moi, malheur à moi. Quelle est notre attitude envers les personnes qui sont dans le monde, qui sont perdues? Je me rappelle quand un homme qui est devenu prédicateur par la suite est apparu à la porte à un culte. Il se jetait par terre à la porte. Il a hurlé, il a dit, je viens de sortir de prison. C'était au Mexique. J'ai tué 7 hommes dans ma vie. Je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Il se jetait par terre et il sanglotait. Et mon père, il a arrêté son message. Il est allé se mettre à côté de lui, par terre. Et il a dit, je me mets à ta place et je t'invite. Approche-toi de Dieu. Et ils sont restés là quelques minutes. Mon père était allongé à côté de lui. Il sanglotait. Et tout d'un coup, cet homme, il s'est levé. Ils se sont levés tous les deux. Ils sont venus devant. Ils se sont mis à genoux. Et Juan Romero a donné son cœur à Jésus-Christ. Et après, c'est lui qui allait dans les villages et dans les petites villes qui annonçaient la parole de Dieu. Il montait dans les montagnes pour aller là où il n'y avait pas de route. C'était quelqu'un qui avait vécu une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement il a compris que Jésus-Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Sommes-nous conscients aujourd'hui de notre véritable situation et de celle de ceux qui nous entourent face à la sainteté de Dieu? Une vision de Dieu. Ça vient par la prière, ça vient par la lecture de la parole, ça vient par un désir profond de ressembler à Dieu, ça vient par un désir profond de connaître Dieu. Nous sommes conscients de sa sainteté. Nous sommes conscients des choses qui viennent pour nous distraire de qui il est véritablement. L'apôtre Paul disait, je veux grandir dans ma connaissance de lui. Et en grandissant dans ma connaissance de lui, je vais aussi participer à ses souffrances. Et je vais continuer à courir dans la carrière qui m'est ouverte jusqu'à pouvoir remporter le prix de la vocation, de l'appel céleste en Jésus-Christ. Il a eu une vision de la sainteté de Dieu. Il a eu une vision de la pureté de Dieu. Il a eu une vision de ce que Dieu mettait à sa portée s'il restait attaché à cette vision. Combien de choses dans la vie viennent nous distraire? Combien de choses dans la vie viennent nous décourager? Et on enlève notre regard. Et on perd la vision. Et sans vision, le peuple périt, la Bible dit. On enlève nos regards et on commence à regarder autour. Restons avec nos yeux fixés sur le Seigneur parce qu'il a un appel à nous faire comprendre par la suite. Aussi, il y a un deuxième élément ici au verset donc 2, verset 1, pardon. Le Seigneur est assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Il ne vit pas que sa sainteté. Il voit aussi les pans de son vêtement resplendissant qui remplissait le temple. On parle des habits. On parle de nous revêtir de ce qui est nouveau. J'aime beaucoup ce passage en Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. C'est une prophétie messianique. L'Esprit de l'Éternel était sur Jésus et aussi sur l'Église aujourd'hui. Et il nous a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il nous a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous a oint pour dire à celui qui est aveugle qu'il peut recouvrir la vue. Il nous a oint aussi pour annoncer à celui qui est captif la liberté, aux prisonniers la liberté. Il nous a oint aussi au verset 3, Ésaïe 61, pour enlever l'esprit abattu et le remplacer par un vêtement de louange. Mais cet esprit abattu, c'est parce que on est sous le poids du péché. On est sous le poids des conséquences du péché. On est sous le poids de la culpabilité. On a des cicatrices sur nous. Des conséquences de ce temps dans lequel on était loin de Dieu. On était loin de la maison de Dieu. On était loin de la grâce de Dieu. Et alors le moment vient quand il vient nous revêtir de Christ. Il vient nous revêtir. Galates chapitre 3, 27, vous avez revêtu Christ. Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Et ensuite, Éphésiens 6, revêtez-vous de tous les armes de Dieu et aussi revêtez-vous de la cuirasse et la justice. Ces vêtements, c'est donc les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Parle d'un habit. Parle du fait que la justice de Dieu, le salut dont il nous révèle, est entièrement le résultat de son œuvre. Et c'est pour cela que nous entendons l'appel « Revêtez Christ ». Revêtez Christ. Enlevez l'esprit abattu et prendre les vêtements de louange. Revêtir Christ. La justice de Dieu, la source de la justice de Dieu. Vous rappelez en Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul, il va se réclamer d'être celui qui mérite une attention particulière. Mais en fin de compte, quand il reconnaît qui est Jésus, on voit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous sommes vêtus de sa justice. Ésaïe 64, verset 5 nous dit que notre propre justice, c'est comme des vêtements souillés. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur avec notre propre justice. Mais la justice est Christ en nous. Revêtons Christ en nous. C'est là qu'Ésaïe va comprendre que le vêtement de Dieu remplissait le temple. Et ce qu'il ne va pas cesser de développer tout au long de son livre. Si vous lisez Ésaïe, vous allez voir à maintes reprises la justice de Dieu. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui sort à notre défense. C'est lui qui se tient devant l'ennemi. Et qui vient et qui se tient devant nous. Et l'ennemi se rend compte qu'il ne peut rien contre nous parce que la justice de Dieu est là. Et on porte la cuirasse de la justice. Comment sommes-nous justifiés? Par l'œuvre du Messie, loin de l'Éternel, nous sommes justifiés. Étant donc justifiés par la foi, étant justifiés par la grâce de Dieu, Romains chapitre 5, nous avons cette paix avec Dieu. Alors la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Mais en plus de cela, il faut la grâce. Quand il dit « malheur à moi », un homme qui représente un peuple dont les lèvres sont impures, immédiatement Dieu va manifester sa grâce. La grâce seule va régler définitivement la situation de perdition dans laquelle il se trouvait. C'est la grâce de Dieu qui va aussi régler définitivement notre position devant Dieu. Et une fois que nous rendons compte que nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes glorifiés en lui, nous allons pouvoir être qualifiés pour le servir. Et c'est pour ça que je disais le résultat cherché, c'était « me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Alors nous pouvons être un peu surpris par la rapidité avec laquelle il passe le malheur à moi, je suis perdu, à me voici, envoie-moi. C'est dit, mais attends, c'est trop vite. La déclaration, mais c'est le miracle principal de la grâce de Dieu qui se manifeste. Il dit malheur à moi. Du moment qu'il dit malheur à moi, immédiatement, ça met en action le ciel, ça met en action Dieu, ça met en action le Père, et immédiatement, il envoie un des séraphins qui vient vers lui, tenant à la main une pierre ardente, qui avait pris sur l'autel avec des pincettes, il touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Rappelez-vous qu'à l'époque, les prophètes, les hommes de Dieu représentaient le peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas ni un pasteur, ni un prêtre comme il est pensé dans la religion traditionnelle, qui doit se manifester à faveur de la personne. Chacun de nous, nous avons une expérience de grâce devant le Seigneur, parce que chacun de nous avons eu l'opportunité d'avoir une vision de la sainteté de Dieu, une vision de sa justice, et aussi expérimenter sa grâce. Sa grâce, elle est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Elle n'est pas bon marché. Beaucoup de personnes pensent que la grâce de Dieu leur donne, je me rappelle avoir parlé avec quelqu'un qui m'a dit, mais Marc, Dieu sait que je vais retomber dans la drogue, alors il va me pardonner. Donc jusqu'au moment où je serai libéré, je continue dans la drogue. Je dis, mais attends, mais c'est pas logique. Oui, mais Dieu m'aime, il me connaît, il connaît mes faiblesses. Je ne sais pas où il avait appris cette doctrine. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Mais lorsqu'on est revêtu de Christ, on ne ment plus, on ne vole plus, on ne se met plus en colère, on ne pêche plus dans la colère. Lorsqu'on est revêtu de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, dans un homme qui est produit dans la sainteté, dans la vérité, là il y a un changement radical dans notre vie. Nos paroles changent, nos attitudes changent. Et quand cette personne me disait, oui, mais Dieu me connaît, il connaît mes faiblesses, donc je sais que je vais continuer. Malheureusement, il a continué pendant encore 8 ans. Mais merci Seigneur, il y a 3 ans, il a enfin été libéré. Mais il a des cicatrices dans sa vie. Il paye un prix pour ce qu'il a continué à faire en pensant que Dieu fermait l'œil parce que Dieu est un Dieu de grâce. Oui, Dieu est un Dieu de grâce. Mais il court avec cette dose de grâce quand quelqu'un dit « Malheur à moi, je suis perdu. Viens. » Et immédiatement, Esaïe va expérimenter la grâce de Dieu pour sa vie et pour la vie du peuple qu'il représente. Ça nous rappelle que c'est sur la base de la grâce seule et non de nos qualifications naturelles que nous entrons dans la mission à laquelle Dieu nous a appelés. On est tous appelés à servir. On est tous appelés à répondre à l'appel du cœur missionnaire de Dieu. Le cœur missionnaire. Quel est le grand ordre de mission? Allez dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est le grand ordre de mission. C'est le cœur missionnaire de Dieu. Le cœur missionnaire de Dieu, ce n'est pas seulement pour ceux qui aiment faire de l'évangélisation. C'est pour nous tous, disciples de Jésus, qui avons vu la gloire de Dieu, qui avons eu cette vision de Dieu, qui avons compris la justice gratuite et absolue par laquelle nous revêtons Christ. Quel message nous avons. Quelle vision avons-nous aujourd'hui? Et encore, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'entendons-nous? Qu'est-ce que nous contemplons? Qu'avons-nous touché de nos mains concernant la parole de vie? De qui rendons-nous témoignage? À qui annonçons-nous la vie éternelle? Qui est désormais en communion avec nous comme résultat de notre vision de Dieu? Et souvent, je pose la question, la communion que nous vivons avec Dieu. On n'est pas parfait, on n'est pas plus pur que les autres. Mais Seigneur, est-ce que ma communion, si elle serait connue des autres, est-ce qu'elle donnerait envie aux autres de te connaître avec cette même communion? Est-ce que nos enfants ont envie de connaître Dieu comme nous le connaissons? Est-ce qu'aujourd'hui, pour les uns, nos petits-enfants ont envie de connaître Dieu comme nous le connaissons? Cette communion que nous vivons, que nous jouissons tous les jours, parce que nous avons vu Dieu, parce que nous avons compris sa grâce, parce que nous avons compris sa justice, parce que nous avons compris que nous devons nous revêtir aussi des armes, l'armure que Dieu nous a donnée, afin de ne pas être dans la confusion et dans le désarroi lorsque nous sommes dans le combat. Le combat est constamment là. Nous sommes au milieu d'un combat. Moi, personnellement, je crois qu'un des armes les plus importants dans le combat spirituel, c'est notre témoignage. C'est là que le diable n'aura plus à nous calomnier. Le diable n'aura plus rien à dire sur nous. Et comme Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Alors je vous invite, et il disait à ses disciples, prenez exemple sur ma vie. Prenez exemple sur ce que je vis. Prenez exemple, bien sûr, Jésus, Dieu et homme, qui n'a jamais péché. Jésus qui a été tenté dans tous les domaines, la Bible dit, afin de pouvoir nous secourir, afin de pouvoir s'identifier, nous comprendre, mais il n'a jamais, jamais commis de péché. Et lorsqu'il a été reçu dans la gloire céleste, et qu'il savait qu'il allait revenir un jour chercher une église, qui portait une robe sans rides, sans tache ni rien de semblable. Cette fiancée qui se prépare pour sa rencontre avec lui, cette fiancée qui passe du temps à contempler sa gloire, à lui ressembler. Et dit, Seigneur, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Seigneur, par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Que Dieu renouvelle notre vision. Quand cette sœur m'a dit, mais ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et je ne bougerai pas. C'est ce que Dieu me dit de bouger. Parce que la seigneurie de Jésus, c'est quelque chose de personnel. De personnel. Et notre marche avec Dieu, elle est personnelle. Notre marche avec Dieu, c'est parce que Dieu nous a invités envisager un avenir d'espérance. Pour nous et pour ceux qui nous entourent. Pour nous et pour nos familles. Pour nous et pour nos écoles. Il y a des lois qui se mettent en place, et ça dans le monde entier. Actuellement au Mexique, il y a 16 lois qui essaient d'être passées donc, au sein du gouvernement, qui vont détruire la famille, qui vont écraser la valeur individuelle de chaque personne. Et surtout, c'est le gouvernement qui va chercher à éduquer les enfants par rapport à la sexualité, par rapport au transgenre, par rapport à ci, par rapport à ça. Et ma soeur me disait, mais il faut que des gens se lèvent dans tous les pays. Il y a des pasteurs qui quittent le ministère du pasteur et qui s'implique dans la politique maintenant au Mexique parce qu'ils veulent avoir une influence en tant que députés, parce qu'ils veulent, aller à l'encontre de ces lois. Et pourtant, la Bible dit que dans les derniers jours, les choses vont devenir encore plus dangereuses, plus périlleuses, mais Le peuple qui connaît son Dieu, Daniel 11, 32, se lèvera et fera des exploits. Le peuple qui connaît son Dieu. Alors au sein même des gouvernements, il faut qu'il y ait des voix, des personnes bibliques qui se lèvent en disant, mais nous ne pouvons pas accepter ce que le gouvernement de l'homme veut faire aujourd'hui. Et c'est pour ça, dans les temps de jeûne, de prière, dans les temps d'intercession, dans les temps dans lesquels nous nous plaçons devant Dieu et parfois nous pleurons l'état de ce monde, et nous disons, Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis à ta disposition. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, Josué, Moïse, ils tombaient, ils se prosternaient. Ils entendaient cette voix qui disait, la terre où tu es est une terre sainte. Car moi j'y suis. Car moi j'y suis. Alors je vous invite et je vous encourage à chercher à ce que la main de Dieu nous accompagne, à ce que la présence de Dieu nous accompagne, à ce que Dieu se plaise à nous avoir à ses côtés. Car une vision renouvelée de sa sainteté, de sa justice et de sa grâce va faire qu'un jour on puisse dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Père, te remercions ce matin. Parce que nous sommes, Seigneur, la lumière, nous sommes le sel, la terre. Tu nous as placés ici, Seigneur, dans un but précis. La France a tant besoin de toi. Les peuples en France ont tant besoin de toi. Les nations, les 120 nations représentées ici à Paris ont tant besoin de toi. Seigneur, et tu nous as placés ici, une église internationale, par les différentes donc, nationalités qu'on représente, par les différentes langues qu'on parle. Tu nous as placés ici au 38 des Vinaigriers, malgré, Seigneur, l'opposition, malgré l'adversité, malgré, Seigneur, le fait qu'aujourd'hui, on n'ouvre plus des églises dans Paris intramuros. Si on ne pouvait jamais concevoir que ce lieu soit fermé dans le 10e arrondissement. Et tu nous as aidés, et tu nous as fait grâce, et tu continues à nous aider. Seigneur, pourquoi? Parce que, Seigneur, il faut que chaque église locale soit un phare là où tu les as placés. Parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Il y a des couples, Seigneur, qui sont au bord du divorce. Il y a des personnes qui sont au bord du suicide. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, oh Dieu, dans la confusion la plus totale, Seigneur. Parce que le monde et le diable a payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du diable, c'est le désarroi, c'est la confusion, c'est la détresse, c'est la condamnation. Il y a tant de personnes, Seigneur, qui traînent dans ces rues. Il y a tant de personnes qui passent devant. Il y a tant de personnes, Seigneur, dans tous ces quartiers. Y aura-t-il des personnes, Seigneur, qui sont en train de lire en secret ta parole? Et comme Philippe a été envoyé sur la route vers l'eunuque éthiopien, et comme par hasard, il se rend compte qu'il est en train de lire Esaïe 53, et lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien lui dit, mais comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et ce n'est pas un hasard, c'était Philippe conduit par l'Esprit. Il pouvait être là pour dire, mais je suis là pour te l'expliquer. Je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour répondre à tes inquiétudes. Et cet homme, peu de temps après, passe devant un étendeau et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe avait été complet, il avait été assez entier dans son explication. Il avait compris que le salut était là, que le baptême confirmait ce baptême de repentance. Et certainement cet homme a été, Seigneur, à l'origine de l'évangile qui a été répandu dans certains pays, dans certaines régions de ce monde. Pourquoi? Parce que Philippe, un homme conduit par l'Esprit de Dieu, qui avait une vision de ta sainteté, qui avait une vision de ta justice, qui avait eu une vision de ta grâce, il s'était dit, pour moi, vivre c'est Christ, mourir m'est un gain, mais c'est sûr et certain, je suis là pour dire, me voici, envoie-moi. Envoie-nous où tu veux, Seigneur. Envoie-nous vers qui tu veux. Et que lorsque nous ouvrons notre bouche, nous donnions envie aux autres de vivre la communion que nous vivons avec toi. Seigneur, attire l'homme à toi. Nous voulons exalter le nom de Jésus. Attire les hommes à toi. Attire-les. Seigneur, parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de repentance. Aujourd'hui est le jour de grâce. Je te demande, Seigneur, que tu fasses de chacun de nous des messagers de paix, des messagers d'amour, des messagers de ta joie. Et que chacun de nous soit conscient. Nous avons été touchés par toi. Nous avons été touchés par ta grâce. Ta justice est en nous. Nous avons revêtu Christ. Et aujourd'hui, nous avons un message à donner. Et nous répondons, me voici, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ. On va chanter ce cœur, me voici, j'irai pour toi Seigneur. Et si ton cœur répond oui ce matin, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Je ne sais pas jusqu'où le Seigneur t'enverra. Je ne sais pas vers qui le Seigneur t'enverra dans ton quartier. À quelle porte tu dois frapper. À quelle porte tu dois donc aller. Vers quel voisin tu dois te tourner. Et qui dirait, mais ce matin je me suis réveillé en disant, est-ce que Dieu existe? Je me rappelle cette fois quand cette dame, la femme d'un grand professeur au Mexique, qui avait perdu sa fille dans un accident 3 mois auparavant, qui avait essayé de rentrer en contact avec elle par des médiums et qui n'avait pas réussi. Pourquoi? Parce que Cécilia avait donné son cœur à Jésus, parce qu'elle avait entendu à la radio qu'elle pouvait aussi être enfant des dieux. Et cette dame, elle répond à 6h30 du matin, elle dit, mais pourquoi vous êtes là? Et on lui a dit, mais on est là pour vous parler de l'amour de Dieu, de la consolation de Dieu. Elle a dit, moi j'ai dit à Dieu il y a 24 heures, si tu existes, je te donne 24 heures pour que tu envoies un signe que tu existes. Et on est arrivé à 6h30 le lendemain, 24 heures après. Et à cause de cette rencontre, des centaines de personnes sont venues à toi. Son fils est devenu pasteur par la suite. Et Seigneur, il a eu vraiment donc une action du Saint-Esprit dans ce foyer. Pendant 3 ans, il y a eu des études bibliques tous les jeudis soirs. Et des centaines de personnes se sont données à toi. Seigneur, pourquoi? Parce que tu devais envoyer quelqu'un. On devait être sensible à ta voix. Et on a répondu, me voici, envoie-moi. Seigneur, si notre me voici, envoie-moi, veut dire le salut de quelqu'un, veut dire la guérison de quelqu'un, veut dire donc l'empêchement du suicide de quelqu'un. Seigneur, montre-nous comment nous pouvons être conduits par ton esprit pour accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles tu nous as préparés. Avant la fondation du monde, tu as préparé ces œuvres. Et tu comptes sur nous. Tu comptes sur nous.